Merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha. Vous écoutez très précisément l'Alpha 10-13. Je suis maintenant en compagnie d'Étienne Détré. Bonjour.
Bonjour Didier, bonjour tout le monde.
Interprète de pop française, tu as appris la musique à Abbeville dans la Somme. Tu as fait de la flûte traversière ton totem. Tu as été professeur de musique aussi. Mais c'est aujourd'hui le musicien que je reçois dans l'Alpha 10-13. Tu as publié deux EP. Un premier, Chute libre en autoproduction totale, et un second, La fugue, empreinte d'une pop synthétique, organique, définitivement romantique, qui t'a demandé près d'un an et demi de travail. Étienne, raconte-nous, pourquoi La fugue et pourquoi Chute libre? Quoi qu'il en soit, tu es toujours en mouvement.
Ouais, c'est ça. C'est un peu les deux mêmes sujets, bizarrement. J'ai toujours l'impression que ça me poursuit un petit peu ce truc de voyage, ce truc de fuite en avant. Alors Chute libre, le premier EP qui est sorti en 2021, je l'ai appelé comme ça parce que pour le coup, j'avais voulu faire un album concept et je voulais raconter l'histoire d'un homme qui décide de tout plaquer dans un futur proche, voilà, qui décide de tout plaquer sur Terre et de partir dans l'espace, se perdre pour trouver une nouvelle planète où il pourrait éventuellement se réfugier. Mmh. Et il va être confiné dans son vaisseau. D'ailleurs, confiné, c'est marrant parce que c'était en 2021 et je l'ai écrit pendant le confinement à peu près. La fugue. Alors, il y a pas ce concept. Cette histoire-là qui se suit de chanson en chanson, justement, j'avais tous mes textes étaient écrits et j'avais pas de nom pour ce second EP. En lisant les textes, je me suis rendu compte que ouais, il y avait quand même ce thème de la fugue vers l'amour, la fugue vers la liberté. Toujours ce mouvement, exactement.
Oui, dans ton titre, un peu de toi, tu dis cette fugue, j'en avais tant besoin, ouais. Mais d'une façon assez contradictoire, tu répètes aussi infiniment dans Rentrer, je veux rentrer.
Ouais. Bon, c'est deux chansons vraiment complètement, pour le coup, qui différentes, hein, qui racontent pas vraiment la même histoire. Dans un peu de toi, quand je dis j'en avais tant besoin, là pour le coup, c'est quasiment autobiographique. Parce que j'étais professeur pendant 9 ans et j'ai eu besoin d'arrêter pour me consacrer totalement à la musique et du coup de fuguer un petit peu. Alors je dénigre pas du tout le métier de professeur. J'ai passé 9 ans magiques. Les enfants m'ont appris beaucoup et ça je tiens vraiment à le dire et que je tiens aussi à dire que c'est un métier extrêmement important pour l'humanité. Où il faut être à 100% et voilà, moi j'étais plus à 100% parce que j'avais la musique qui m'appelait beaucoup et donc j'avais besoin de fuguer et j'en avais tant besoin.
On te compare souvent à Étienne Dao. Qu'en penses-tu, toi?
Alors c'est marrant parce que Étienne Dao, j'ai écouté quand j'étais petit. Ma maman écoutait beaucoup, mais moi j'avais jamais pris le temps d'écouter avant qu'on me dise que j'ai son grain de voix, sa façon de chanter. Donc c'est peut-être inconscient. Moi je pense que c'est vraiment par hasard que c'est venu. On m'a aussi beaucoup comparé à Hubert Mounier de l'affaire Louis Trio, notamment sur la chanson Petite Bleue.
De ton précédent EP?
De mon précédent EP, et dans les deux cas, je suis extrêmement honoré, parce que ce sont deux grands artistes qui ont apporté beaucoup à la musique française.
Et beaucoup plus que Dao, c'est Bachung, ta grande inspiration dans la musique française.
Ouais, je suis un peu tombé amoureux de Bachung, j'allais dire de ses textes, c'est pas lui qui écrit ses textes, hein, le Bachung, en fait, sa grande magie, c'est sûr, c'est un compositeur, mais c'est aussi un très 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 grand interprète de textes et il va, voilà. Donc, Bachung, une grande inspiration, immortelle, qui est peut-être ma chanson préférée.
Et parmi tes autres influences, j'ai pu noter du Massive Attack, mais aussi Stanley Kubrick. Explique-nous.
Ouais. Massive Attack, ça m'a accompagné de mes 16 à mes maintenant, hein, clairement. Mm-hmm. C'est le trip-hop, l'ambiance trip-hop qui vient de Bristol, un petit peu sombre. Ça m'a toujours attiré, cette recherche de sonorité. C'est aussi beaucoup de samples. Ils vont puiser dans beaucoup de samples des années 60, 70, 80. Et donc j'ai découvert des chansons grâce à eux. Et puis bon, c'est l'univers de Massive Attack. Alors il paraît que c'est Bang Bangski.
Mm-hmm.
On sait pas. Ce serait génial de un jour de savoir, mais bon, le secret est intéressant. Et Stanley Kubrick, bah ouais, j'ai été profondément bouleversé par ses films. Et je me suis beaucoup inspiré pour la pochette de La Fugue, justement avec le photographe avec qui j'ai travaillé. J'ai demandé d'avoir un grain Kubrick, quoi, un grain années 70. Donc en fait, il est parti avec son appareil numérique. La photo a été ultra propre et il a rajouté du grain. Alors quand on regarde cette pochette, je voulais aussi qu'il y ait aucun témoin de modernité. Donc en fait, je voulais que quand on voit le personnage en train de courir, on ait l'impression qu'on puisse être en 1700, comme en 1600, comme en 3800, je sais pas, mais je voulais pas de témoin de modernité.
Et tu parles de personnage, tu ne parles pas de toi.
Ouais. Ça me semble important en fait, de me décupler et de garder une part de moi pour la vie réelle et une part de moi pour la vie artistique, qui est quand même réelle. Hein, cette vie artistique, c'est ma réalité, c'est tous les jours, c'est même la nuit. Hein. Je parlais avec quelqu'un qui me disait que, en fait, artiste, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. On se lève plus le matin pour aller au boulot. En fait, on se lève même plus. C'est-à-dire qu'on bosse tout le temps. Donc oui, j'ai quand même besoin de me dire que je vais au boulot. Du coup, je vais rentrer dans un personnage et ça me fait du bien.
Et donc, quand as-tu assumé ce mode de vie?
Depuis septembre, parce que j'ai arrêté.
C'est très récent.
Ouais, c'est très récent. Bon, je l'avais déjà assumé, je l'avais déjà en tête. Hein. Je voulais le faire depuis très longtemps, mais. J'osais pas quitter l'éducation nationale et quand justement le projet Étienne Détry a pris un peu d'importance, même enfin beaucoup de temps, beaucoup d'importance pour moi, qui me demandait beaucoup d'énergie et où je voyais que je pouvais plus faire les deux. Et comme tout à l'heure, je disais, les enfants, ils ont besoin de 100%, voire même plus, pour les faire évoluer. J'ai décidé de partir, donc j'ai arrêté, j'ai eu ma rupture co. Là, je parle vraiment vraiment dans mon intimité, mais j'ai eu ma rupture co en fin août et début septembre. Là, je me suis
on peut donc avoir totalement... des ruptures conventionnelles avec l'éducation nationale.
Ouais. Et je peux dire que peut-être, enfin d'ailleurs, je les remercie parce que ils ont vraiment été à l'écoute, parce que je leur ai bien expliqué que j'avais ce projet et voilà, et je voudrais les saluer parce que ils m'ont dit: on va vous laisser vivre votre rêve. Et avoir des personnes qui nous disent ça, c'est quand même une énorme chance. Donc je tiens à les saluer, vraiment.
On évoquait Massive Attack il y a un instant, il y a un titre fétiche quand même, Black Milk.
Ouais. Black Milk, c'est la mélodie de la chanson, c'est le côté suave du son. Là, je parle du son général de la chanson. Voilà, elle est addictive. J'ai jamais essayé de la reprendre, mais ouais, je trouve qu'elle est à part, cette chanson. La voix de la chanteuse est à part. Ouais. Elle est magique.
Tu évoquais la pochette de ton EP La Fugue, un peu intemporelle, et quelle belle pochette. Où a été prise la photo?
Alors, c'est un secret. C'est un secret. Donc, je peux dévoiler quelques indices. J'ai décidé de garder le secret parce que justement, quand on y est allé, j'ai rencontré quelqu'un qui randonnait là-bas et qui vit juste à côté, et il était surpris de nous voir là-bas. Bon, il y a quelques personnes qui connaissent, mais il m'a dit surtout essayez de le garder pour vous, parce que après, imaginons que Étienne Détré ça parte d'un coup, peut-être qu'il va y avoir du monde à cet endroit.
Bien
et
sûr.
C'est un endroit très préservé. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est dans ma région, dans là d'où je viens. Donc c'est juste à côté de la baie de Somme. C'est entre Holt et Mers, exactement.
Mers-les-Bains,
bravo.
Les falaises de la baie de Somme.
C'est ça, tout à fait.
Étienne, nous allons pour le moment marquer une courte pause.
Ouais.
Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis toujours en compagnie d'Étienne Détré, dont l'EP le plus récent, La Fugue, se termine avec un titre qui s'appelle La Folia. Qu'est-ce que c'est que ça, La Folia?
Alors, La Folia, j'ai envie de dire que c'est un peu une reprise. C'est assez spécial parce que La Folia, c'est, c'est un thème. Alors en musique, un thème, c'est une mélodie. C'est une mélodie qui pourrait faire office de refrain. On peut dire que ça pourrait faire office de refrain. C'est un thème, on reconnaît le thème quand on l'écoute. Par exemple, la Marseillaise, hein, ta-ta-ta-ta-ta, ça c'est un thème. Et en fait, le thème de la Folia a été créé il y a très très longtemps. On pense que ça a été créé au XIVe siècle. Et il vient de la péninsule ibérique et du coup probablement du Portugal. Mmh. Voilà. Ce thème est un thème de danse populaire, donc qui était chanté, dansé par les bergers, voilà les paysans, etc. Et il est tombé dans les oreilles de certains compositeurs. Et il a voyagé en Espagne et il s'est transformé en folie d'Espagne. Les Espagnols l'ont repris. Alors la source est portugaise et ça, voilà. C'est je pense que c'est important de le souligner. Alors les folies d'Espagne, c'est le nom français. Hein, donc c'est les Français qui appellent ça les folies d'Espagne. Voilà. Et en fait, c'est un thème qui s'est propagé dans toute l'Europe et c'était un tube, voilà, à la musique baroque. La musique baroque, on est au XVIIe siècle. Hein, donc là, il y a 200 ans après. Hein, pendant 200 ans, ça s'est développé. Et ce thème a été repris par plus de 150 compositeurs de musique classique jusqu'à nos jours. Donc il y a Franz Liszt, Antonio Vivaldi, Corelli. Voilà, on peut le retrouver dans beaucoup de. Là, je parle vraiment de musique classique et on le retrouve. Attention. La boucle va se boucler. On le retrouve dans un film de Kubrick.
Lequel?
Exactement. Mon préféré, Barry Lyndon. Voilà. Donc, ça fait ses notes. Ah. Pom, 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 pom. Tu vois, ça, dès qu'on entend ces notes-là qui sont jouées au timbal, c'est ce thème-là. Et en fait, Kubrick a repris ce thème. Et je faisais un cours sur la basse continue pour mes petits quatrièmes à l'époque. Donc la basse continue, c'est une basse, là ce que je viens de chanter, c'est une basse continue, donc c'est une basse qui se répète, qui va faire la base d'un morceau. Et je faisais un cours sur la basse continue pour mes petits quatrièmes et j'étudiais la Folia. J'étais devant mon ordinateur et j'écoute la Folia et je me dis c'est quand même, elle est quand même très puissante cette basse continue, cette mélodie. Et là je vois les accords et je prends la guitare. Et je commence à jouer les accords en arpège. Et là, je chante la mélodie à la voix. Et je me dis, pourquoi tu n'écrirais pas un texte dessus? Voilà. Et là, j'ai commencé à écrire un texte et c'est sorti d'un coup. C'est pour ma sœur, ce texte-là, hein, qui n'allait pas très bien à ce moment-là. Et ça fait, donc, sèche donc tes larmes et regarde la foule. Leur joie est immense, vient les rejoindre dans leur danse. Voilà, et donc c'est l'explosion, la fugue vers la liberté, vers la danse, vers la folie aussi. Et j'ai fait ces petites paroles et je me suis enregistré pour faire une vidéo Insta. Et là, j'ai tous mes potes qui m'envoient un message en me disant mais c'est incroyable. Et vraiment, j'ai halluciné. Truc d'une minute et ils ont débloqué. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir et j'ai commencé à la jouer à la fin de mes concerts et à chaque fois les gens étaient là, ils attendaient cette chanson quoi. Donc et en fait elle durait une minute. Là on va écouter la Folia. Elle est en deux parties. Moi j'avais composé que la première partie, guitare voix à la base. Et puis tout le monde me disait mais elle est trop courte. Enfin
faut faire durer le plaisir.
Voilà. Et donc là je me suis dit on va faire une deuxième partie.
Et il y a une vraie rupture au milieu de la chanson. C'est-à-dire que il y a la guitare s'arrête, elle s'éteint progressivement et on a cette espèce de tourbillon électronique qui arrive.
On passe de la douceur à la entre guillemets violence. C'est pas vraiment violent mais voilà au ardent, voilà à la flamme quoi. Et oui, c'est une structure en A et en B, hein. C'est tout simplement ça, la partie A guitare voix très très calme, très suave, mélancolique. Et la partie B explosive. Et si vous regardez le clip d'ailleurs,
on va en parler de ce clip fabuleux.
Merci beaucoup. Je n'y peux pas grand-chose. J'ai écrit un peu le clip, hein, mais vraiment, ça, on parlera des personnes qui ont travaillé dessus. Et voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la composition de cette folia. Et justement, tout à l'heure, je lisais un truc sur le fado, et je trouve que on peut retrouver un petit peu cette mélancolie qu'on retrouve dans le fado dans cette folia. Donc c'est potentiellement lié justement au Portugal.
Une partie B plus explosive, tu le disais, dans lequel on entend un incroyable solo de flûte traversière.
Ouais, merci beaucoup. Ça me touche.
C'est un des moments forts du titre.
Ouais, c'est un des moments forts du titre. Oui, c'est j'avais envie d'incarner aussi cette folie avec un solo composé, vraiment très composé de flûte traversière.
Nous allons donc maintenant écouter La Folia de mon invité Étienne Détré. Elle a su réconforter ta sœur, cette chanson.
Alors je lui ai pas dit tout de suite, hein, que c'était pour elle. D'ailleurs, je crois qu'elle est même pas au courant. Franchement, je crois que je lui ai même pas dit par pudeur, vraiment, parce que voilà, en lui parlant à elle, je voulais aussi parler à toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes, toutes ces personnes qui à un moment donné dans leur vie ont besoin d'exploser, ont besoin de lâcher les choses. Et on a toujours au moins une fois dans l'année, ce besoin-là.
Parlons maintenant du clip de ce titre, La Folia, disponible notamment sur YouTube.
Oui.
Quel incroyable travail.
Merci beaucoup.
Notamment celui de la danseuse dans le clip.
Ouais. Héloïse Jocoviel, qui était, alors je sais, je pense qu'on prononce Quadrig ou quoi, je crois. Mm-hmm. Donc c'est un rang de danseuse à l'Opéra de Paris. Elle était à l'Opéra de Paris. Maintenant elle est indépendante et c'est une personne extrêmement talentueuse. Donc ça a été un travail en équipe avec Jeanne Privat, la réalisatrice. Donc nous on est partis tous les deux avec Jeanne sur la volonté de faire quelque chose de sobre mais en même temps captivant, et aussi avec le budget qu'on a, hein, évidemment, et en intérieur sombre, on voulait quelque chose un peu sobre et sombre. Tout ça, on s'est dit, ça va être dans un hangar, on va pas avoir beaucoup de déco, et tout va se fixer sur la personne qui fera une performance. Alors on est passé par plusieurs idées. Au début on voulait travailler avec le cirque. Et on s'est dit que ça pouvait être très, très, très joli, le cirque. Mais en fait, rapidement, on a vu un danseur qui s'est transformé après en une danseuse. Voilà. Alors, on avait des touches avec un danseur. Finalement, ça s'est pas fait. Et après Jeanne, je crois, elle a travaillé sur une série en tant que script. Et elle a rencontré Héloïse qui travaillait sur cette série. Et, et elle est allée la voir, elle lui a proposé. Héloïse a bien voulu. Et voilà, il y a donc quand on regarde le clip, il y a vraiment deux phases. Il y a une partie A, une partie B. La partie A, Héloïse, elle l'a vraiment écrit, et la partie B, il y a un petit peu d'improvisation. Elle s'est laissée la place à cette liberté-là, justement pour l'explosion.
Elle s'est laissée la place d'exploser, mais dans un carré de lumière très restreint.
Ouais.
On est là aussi dans le côté sobre et sombre dont tu parlais.
Voilà, bah en fait c'est ça, hein, c'est le contraste entre finalement l'emprisonnement, l'enfermement, le cocon au tout début, le petit carré, et puis la liberté par la danse, et puis par la fuite à la fin, par la fugue. Hein, je reprends le terme, hein, mais par la fugue à la fin.
Elle quitte la scène.
Elle arrive à se sortir de cette folie. Donc voilà, et les carrés de lumière, oui, c'est aussi par côté de sobriété. Et ça, c'est vraiment une idée. Ça, c'est une idée de Jeanne et de Luca aussi, hein, le chef op. J'ai eu la chance, vraiment, sur tous les clips que j'ai faits, mais aussi sur celui-là, de travailler déjà avec des amis, mais vraiment des gens qui sont dans le cinéma. Et on voit la passion, on ressent la passion des gens. Ils font pas ça pour l'argent. Ils font ça pour l'art. Et ça, c'est une magie de travailler avec des personnes comme ça. Donc ça, c'est une chance. Et ils ont des idées. Ils ont vraiment beaucoup d'idées. Et on le voit dans ce clip. Et on voit que ce clip est un condensé de talent. Et je parle pas de la musique, je parle vraiment du visuel.
Et il y a une très belle photographie aussi dans ton clip Rentrée.
Oui, merci beaucoup. Alors là, c'est le clip Rentrée, c'est Bastien Prado. Donc c'est un réalisateur qui vient de mon coin, donc de la baie de Somme. Alors lui, il vient plus d'Amiens et il travaille avec beaucoup de monde, et je l'avais croisé une fois, et j'aime bien bosser avec des gens qui ont une bonne énergie, et j'ai senti tout de suite que ça allait le faire. Et on a tourné en deux jours, et il y a toujours aussi ce principe d'enfermement. À un moment, je suis dans la citadelle de Doulan. C'est une prison, une ancienne prison. Je suis aussi dans une pièce de château, etc. Là, on est quand même plus sur des plans, sur des beaux plans. Mais il a
une belle lumière aussi.
Ouais, non, mais il a vraiment aussi, lui aussi, il est extrêmement talentueux. Il nous a épaté, hein, sur le tournage. Ça a duré deux jours. Je crois qu'on était quatre ou cinq. On a bossé, hein, vraiment. Et le rendu est vraiment vraiment superbe, et ça, c'est son talent. Il a une vision photographique très très belle, très très impressionnante.
Étienne, par quoi te sens-tu enfermé pour avoir une telle envie de fuir, fuguer ?
De fuguer. Très bonne question. Je sais pas si je vais réussir à répondre à ça. Ouais, c'est compliqué, hein, ce que tu me demandes, parce que en soi, je me sens pas tant enfermé que ça, hein. J'ai quand même la chance de faire le métier que j'aime, et ça, c'est une chance inouïe, et donc j'arrive à justement Ouais, bon, c'est sûr que j'ai des névroses, comme tout le monde, et c'est peut-être ça dans mon enfermement, mais ouais, en fait, c'est la fugue, c'est je me parle à moi-même peut-être, mais je parle vraiment, enfin moi j'estime que les chansons c'est pour fait pour parler aux gens. C'est fait pour parler à tout le monde, que chacun puisse s'y retrouver, et c'est pour ça que la fugue c'est pas que ma fugue, c'est la fugue de tout le monde. Donc là, j'avoue, je noie un peu le poisson parce que je sais pas comment te répondre à ça. Je me sens en même temps enfermé, mais en même temps totalement libre. C'est très philosophique et on pourrait en parler pendant des heures.
C'est la contradiction qu'on évoquait au tout début quand tu dis cette fugue, j'en avais tant besoin, mais qu'en même temps tu répètes, je veux rentrer.
Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense qu'on est tous des êtres contradictoires. Voilà, tous les jours, toutes les journées. On dit oui, on dit non, mais moi je suis vraiment comme ça pour le coup.
J'imagine que tu plonges déjà sur la suite.
Ouais, j'ai déjà des chansons de prévues. Je suis en train de réfléchir à peut-être changer un petit peu de stratégie. Tu vas me dire ce que t'en penses d'ailleurs, parce que
allez.
Parce que je me rends compte que on n'écoute plus la musique de la même façon. C'est d'ailleurs marrant parce que tout à l'heure on était en train de parler de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que on parle d'EP, on parle de mes EP que j'ai sortis, on parle de disques, on parle encore de disques. On est en 2024, on parle encore de disques. Moi j'adore l'objet du disque, hein, le vinyle, le disque, et la cassette, l'objet matériel. Mais c'est vrai que plus personne presque n'écoute des disques. Là, j'ai sorti mes disques, hein, vraiment. J'ai pressé. Et des fois, j'en donne aux gens. Les gens ils me disent oh, non, ça va rester sur ma cheminée. Non, regarde-le. Je fais mais non, mais c'est pour l'objet. Enfin bref. Et voilà, donc je suis en train de penser à changer de stratégie parce qu'aussi les habitudes d'écoute ont complètement changé. Toi, dans ton travail, tu écoutes du début à la fin une œuvre parce que aussi peut-être que t'aimes faire ça, mais les gens maintenant n'écoutent plus un EP du début à la fin. Ils vont écouter une chanson et puis après ça va partir en playlist et ils vont changer d'artiste. Et en fait, ils vont suivre ce que l'algo, donc l'IA, va lui proposer. Tiens, tu aimes Étienne Détré, tu aimes rentrer de Étienne Détré, bah tu vas peut-être aimer Étienne Dao. Et puis d'un coup, ils vont lui proposer Étienne Dao. Et voilà. Donc.
Et cette nouvelle écoute force à une nouvelle façon de travailler aussi en tant qu'artiste, puisque on ne peut plus penser un ensemble de musique réuni. On peut plus penser un parcours musical de A à Z. Je commence par ce titre, je termine par celui-ci, puisque de toute façon, la plupart des gens ne l'écouteront pas dans ce sens-là.
La plupart des gens. Et c'est vraiment une vaste question à laquelle je discute de ça avec tous mes amis musiciens. Mais pour ça, le rap a été vraiment précurseur parce que, enfin, les rappeurs ont été vraiment précurseurs parce que ils sont pas pris la tête, ils se sont dit on sort des tracks. Et en fait ça a fonctionné, ils ont tout compris. Et moi je commence à réfléchir aussi un peu comme ça. Je me dis que en fait il faut être vraiment présent sur les réseaux sociaux, ça c'est obligatoire quand on est artiste. Et les réseaux sociaux ont besoin qu'on soit présent de plus en plus.
Oui, d'être alimenté.
Voilà, être alimenté. Donc l'artiste a besoin d'alimenter. Donc un EP. Là, l'EP, la fugue, j'ai mis un peu plus d'un an à le concevoir, à le terminer. Donc, en fait, s'il faut être présent tous les mois et sortir quelque chose tous les mois, c'est impossible. Donc, en fait, il faut s'adapter.
Bah, c'est l'effet musique TikTok aussi.
Ouais, tout à fait. Alors, musique TikTok, c'est encore pire parce que maintenant, c'est des extraits de 40 secondes, enfin, une minute. Aya Nakamura fait du 2 minutes. Donc là, c'est pareil, ça a condensé. Après voilà, j'aime bien aussi faire des chansons de 4 minutes. Je suis très content de ça.
Oui, et puis ça manque en radio. Moi qui travaille en radio tous les jours, ça manque des longs titres de 4-5 minutes.
Ouais, c'est vrai. Après c'est vrai que le format pop c'est 3 minutes là sur tout l'EP, c'est à peu près 3 minutes. Je crois que le prisonnier elle dure 4 minutes. Elle prend plus son temps. Mais voilà, le format pop est 3 minutes. Mais c'est aussi intéressant ce format pop parce que c'est aussi tout l'art de la pop, c'est de condenser. Essayer de condenser tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a ingurgité en 3 minutes et de faire quelque chose d'intéressant en 3 minutes. Et ça, c'est le pouvoir de la pop. Donc, pour répondre à la question que tu posais, oui, je vais avoir des sorties. Là, je vais me remettre au boulot. Là, j'ai quelques concerts. Je fais pas mal de promos, etc. J'aimerais être Shiva, j'aimerais pouvoir être en train de composer en ce moment même, mais c'est impossible.
Avant cette aventure solo dans laquelle tu t'es lancé, il y a d'abord eu des aventures collectives.
Tout à fait. Ouais. Je suis passé par plusieurs groupes. En fait, avant, je chantais en anglais. Et en 2016, j'ai décidé de chanter en français pour diverses raisons.
Oui, dans une interview pour nos confrères de France 3 Picardie, ouais. Tu as dit avoir mis plusieurs années avant de réussir à écrire tes titres en français, ouais. Et même plus précisément, de réussir à bien écrire en français.
Ouais, c'est extrêmement exigeant le français. Par modestie aussi, quand on se lance dans le français, je pense qu'il faut vraiment respecter cette langue. Bon, après c'est vraiment mon avis, hein, pour le coup, et vraiment prendre son temps pour essayer d'écrire quelque chose d'intéressant. Et là je sens que je commence à trouver ma patte, trouver mon style, trouver ma façon d'écrire, mais j'ai encore plusieurs années pour moi estimer à réussir à être assez haut, on va dire. Par exemple, les textes de Bachung, bon, c'est pas lui qui écrivait, mais...
Puis on parle d'écriture automatique.
Et Bachung. On parle d'écriture automatique, ce qui m'intéresse beaucoup aussi. Voilà, Gainsbourg aussi. Et puis, ça demande une écriture de tous les jours. Alors, je pense à Arthur Desboules de Feu Chatterton aussi, qui lui... Je pense que c'est quelqu'un qui écrit tous les matins.
Et puis qui publie de la poésie parallèlement à son activité de chanteur.
C'est un métier. C'est chanteur et parolier, j'ai envie de dire, c'est quasiment deux métiers. Mmh. Et être auteur, compositeur, interprète, ça demande du travail. Donc ça demande plusieurs années pour essayer de bien faire les choses.
Et nous allons pour le moment marquer une courte pause. Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis avec Étienne Détré. Quels sont tes concerts prochainement prévus?
Alors c'est des concerts qui vont être dans la région d'où je viens, qui est la région Hauts-de-France. Donc il y a le festival Zik en Brousse avec des très bons artistes. Il y a Fancy Acres, je sais pas si
Oui, de nom, ouais.
Voilà, qui sont là-bas. Donc le Zik en Brousse, c'est à côté de en baie de Somme, en fait. Voilà. Ensuite il y a potentiellement un concert à Mégacité, parce que je fais partie d'un concours.
Absolument, on va en parler. Tu es un des 10 candidats sélectionnés pour l'aventure Haut les Talents 2024, organisée par France Bleu Picardie et France Bleu Nord. Ouais. Raconte-nous ça.
Alors, c'est un concours de chansons françaises qui a sélectionné 10 artistes qui font de la chanson française, de la chanson pop française, qui viennent des Hauts-de-France. Donc les Hauts-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Donc Amiens, Lille, etc. Et donc nous sommes 10, et là il faut voter tous les jours. Ça fait 2 semaines, il faut voter tous les jours pour pouvoir m'amener en finale pour jouer sur Mégacité. Donc Mégacité, c'est une belle salle à Amiens, une très très belle salle, hein, 900 places. Donc ça commence à remplir. Et ça c'est la finale. Et après, si on gagne la finale, on est programmé pendant 3 mois. Sur sur France Bleu Nord, France Bleu Picardie, etc.
C'est une belle récompense.
Et ça, c'est super, vraiment.
Une belle visibilité.
Pour l'artiste, c'est vraiment génial. Et alors,
comment vote-t-on?
J'ai tout mis là dans ma bio Insta. Il y a un truc qui s'appelle Vote pour moi. On peut cliquer dessus. Je fais plein de stories tous les jours. Je fais une story avec le petit lien cliquable. Voilà, sur ma page Facebook, il y a tous les liens. Et puis après, il faut cliquer sur la photo, sur Étienne Détré, rentrer son mail, son nom, son prénom, et cliquer sur voter. Et en plus, on peut le faire plusieurs fois par jour et tous les jours.
Et alors, pour nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient accompagner ton travail, comment font-ils?
Il faut qu'ils aillent sur ma page Instagram, soit mon profil Instagram, soit ma page Facebook, et cliquer sur les liens et suivre cette démarche-là.
Et les deux s'appellent Étienne Détré.
C'est Étienne Détré, ouais, tout à fait.
Étienne Détré, qui était mon invité aujourd'hui, interprète de pop française. Il a publié 2 EP, un premier Chute Libre et un second La Fugue. Des concerts très prochainement, comme tu viens de l'évoquer. Ouais. Bonne route à toi, Étienne.
Merci Didier, merci à tout le monde. Merci.